L'essentiel pour le général de Gaulle, président de la République française, ce n'est pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte. L'essentiel pour lui, c'est ce que veut le peuple français.
Théodule, du grec Théos, Dieu, et Doulos, esclave, esclave de Dieu, un prénom ancien qui n'est quasiment plus donné en France aujourd'hui, mais qui affuble toujours ces organismes que le général de Gaulle aurait pu qualifier en son temps de machin, ces comités, observatoires et autres commissions consultatives qui coûtent cher pour une utilité pas toujours démontrée. La chasse au comité Théodule est donc relancée, un gisement d'économie pour les dépenses publiques, il va bien falloir financer les mesures annoncées après le grand débat, une circulaire est en préparation à Matignon avec un certain nombre de structures dans le viseur, notamment les plus petites, celles qui emploient moins de 100 personnes à temps plein, à regrouper ou à supprimer, sauf avis contraire, dûment motivé par les ministères de tutelle. Pour certaines, ce sera compliqué. Qui volera, par exemple, au secours de la commission interministérielle des données d'origine spatiale, censée se réunir tous les ans, 20 000 euros de budget annuel, une goutte d'eau, me direz-vous. Sauf que des organismes comme celui-là, petits ou grands, plus ou moins coûteux, on en recense plus d'un millier. Certains feront peut-être aussi les frais d'arbitrage plus politiques. La Commission nationale du débat public, par exemple, l'exécutif n'a toujours pas digéré qu'elle ait refusé d'organiser le grand débat. La difficulté, un peu comme pour les niches fiscales d'ailleurs, c'est toujours la même, évaluer le rapport coût-utilité. Pas évident à faire, tant chaque organisme est prompt à défendre bec et ongle son rôle incontournable. À quand un comité indépendant d'évaluation des comités indépendants ?
France Inter, on a Arrête pas l'écho, Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine écho du samedi. Un magazine qui doit beaucoup à Coy Nguyen qui le réalise, à Valentin Pérez qui le prépare, sans oublier Juliette Delperrou avec nous aujourd'hui en régie. La fin de l'histoire n'a pas eu lieu, mais celle de la mondialisation a-t-elle commencé? Bonjour nos débatteurs du samedi. Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique.
Bonjour à tous.
Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business.
Bonjour.
Dans sa guerre commerciale et technologique contre la Chine, Donald Trump est-il en train de mettre en péril la croissance mondiale et la nôtre, selon vous?
Ah, il lui donne un petit coup d'arrêt quand même plus fort que ce qu'on aurait pu penser sans doute il y a quelques mois.
En même temps, ça avait commencé avant Trump.
On en débat dans quelques minutes. Ne manquez pas tout à l'heure l'interview d'un patron dont la parole est rare, Jean-Dominique Senard, le nouveau président de Renault qui a succédé à Carlos Ghosn à la tête de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis qu'il occupe ses fonctions à plein temps. Entretien à suivre dans une demi-heure. Il sera précédé d'un reportage sur la filière automobile en difficulté. Les ouvriers du sous-traitant creusois GMES sont à l'affiche d'un film qui a été projeté à Cannes dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. Nous les avons suivis en long format de l'usine au tapis rouge. Et bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Fabien.
Votre chronique Ma vie au boulot comme chaque samedi, question sur le travail du dimanche aujourd'hui.
Oui, Clémentine s'interroge sur le volontariat après cette affaire de salariés licenciés parce qu'ils n'ont pas voulu travailler le dimanche. Mais si on dit oui un jour, est-ce oui pour toujours?
Merci Sandrine, on verra ça tout à l'heure. Rendez-vous à 10h05.
Vers mai 2019.
Nous nous disputons un peu avec la Chine.
Donald Trump.
Parce que nous avons été traités de façon très injuste pendant de nombreuses décennies.
Président des États-Unis.
Depuis de nombreuses années, nous perdons entre 300 et 500 milliards de dollars par année dans nos échanges commerciaux avec la Chine. Nous sommes la tirelire dont tout le monde aime profiter. On ne peut pas laisser ça continuer.
Il faut freiner la montée en puissance de la Chine. Voilà l'un des fils rouges de la politique de Donald Trump. Dernière mesure en date, interdire aux entreprises américaines de vendre des équipements de pointe à Huawei, le géant chinois des télécoms, numéro 2 mondial, soupçonné d'espionnage au profit de Pékin.
Ce qui veut dire qu'au 19 août prochain, les portables et tablettes Huawei seraient privés de Google, de son système d'exploitation Android.
Là, on n'est pas dans un conflit commercial.
Patrick Artus.
On est dans un conflit pour la maîtrise technologique.
Chef économiste chez Natixis.
Les Chinois veulent maintenant internationaliser leurs grands groupes technologiques qui pourraient prendre le marché mondial dans un certain nombre de métiers des télécoms. Et donc là, on a une réaction qui est une réaction de panique devant la réalisation de ce que dans certains domaines, les Chinois sont plus avancés que les Américains.
Les sanctions qui sont imposées par Donald Trump peuvent avoir des effets totalement contre-productifs.
Françoise Nicolas.
Effectivement, il est persuadé qu'il va gagner, mais c'est pas sûr du tout.
Économiste à l'Institut français des relations internationales.
Et moi, je vois un risque quand même assez important, c'est qu'il va pousser finalement les Chinois à amplifier et à accélérer leur programme de Made in China 2025, qui a pour objectif d'avoir une certaine partie du marché pour les puces pour smartphones.
Tout le secteur, aujourd'hui, est extrêmement inquiet.
Stéphane Richard.
De ce qui se passe.
PDG d'Orange.
La question, elle est simple. Est-ce que l'Europe a aujourd'hui la volonté de se démarquer des positions américaines, de maintenir une forme d'équilibre, en effet, entre les impératifs de sécurité qui sont essentiels et que tout le monde partage, et aussi l'intérêt qu'il y a de ne pas se couper de la technologie de Huawei.
Nous allons déployer la 5G.
Bruno Le Maire.
Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence possible, à ce que notre souveraineté soit maintenue.
Ministre de l'économie.
Et en même temps, nous voulons garantir le meilleur accès technologique pour nos entreprises, pour les particuliers dans notre pays.
Donc c'est la France ne prendra pas des mesures comparables à celles des États-Unis.
Nous ne voulons pas cibler une compagnie ou une autre. Il y a aujourd'hui beaucoup d'opérateurs qui travaillent sur la 4G avec Huawei. Nous ne ciblons pas d'opérateurs, mais nous fixons des lignes qui sont très claires. Respect de la souveraineté nationale et meilleur niveau technologique.
Le géant chinois des télécoms Huawei dans le viseur de l'administration Trump, accusé par Washington de mentir lorsqu'il se défend de collaborer avec le gouvernement chinois des fins d'espionnage. Huawei dénonce un harcèlement, les autorités chinoises protestent, l'escalade verbale et commerciale aura des conséquences pour Huawei, pour la Chine et bien au-delà. Il y a déjà l'industrie des composants informatiques qui est touchée. Christian, Emmanuel, les dégâts risquent-ils d'être plus larges ?
Bah, il y a effectivement des dégâts importants dans un secteur où, il faut le rappeler, on a l'impression qu'on a des grands géants continentaux qui s'affrontent, hein, les géants américains, les GAFA, les géants chinois, les BAT, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que tous ces groupes ont des imbrications très importantes parce que tous fabriquent avec les produits des autres, en grande partie. Alors, oui, il y a un problème Huawei. Huawei, c'est quoi le problème ? C'est que c'est quand même un groupe qui, en 30 ans, est devenu le champion du monde des infrastructures de téléphonie mobile, donc position enviable. Et puis surtout, Huawei a pu compter sur le soutien très puissant du gouvernement chinois. On nous fait croire que c'est une entreprise qui est détenue par ses salariés. En fait, ça n'est pas vraiment le cas. Il y a vraiment, effectivement, la puissance du gouvernement chinois derrière. Et pourquoi c'est stratégique ? C'est parce que Huawei est au cœur de la 5G qui permettra l'essor véritable de tout ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc c'est un enjeu absolument crucial. Alors oui, si vous empêchez Huawei d'installer les produits de Google, bah ça risque de pénaliser effectivement Huawei, mais qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas en même temps encourager Huawei à développer ses propres solutions ? Et puis si les Chinois prennent des mesures de rétorsion contre les Américains, si on empêche par exemple Apple de construire ses iPhones en Chine, ou si on empêche Google du coup d'accéder aux données que lui fournissaient les portables Huawei. Donc ça a des répercussions en chaîne quand même sur toute l'industrie et pas seulement sur Huawei.
Christian ?
Oui, Huawei c'est quand même un vendeur de smartphones. Je suis sûr que dans le studio il y a quelqu'un au moins qui doit avoir statistiquement un portable Huawei. Je me tourne vers ma voisine de gauche. Et c'est aussi, comme l'a dit Emmanuel, un équipementier sur la 5G. La 5G c'est pas simplement l'Internet des objets, c'est la production industrielle, c'est les voitures autonomes, c'est ce qu'on appelle les villes intelligentes, les smart cities, ça va au-delà de l'Internet.
C'est le monde connecté,
mais au-delà du frigo qui va vous passer commande pour vos yaourts, si vous manquez de yaourts. C'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce que Trump met ça en avant ? Bon, la loi chinoise dit que toutes ces entreprises de télécom, toutes ces entreprises de téléphonie doivent donner aux autorités chinoises des informations si elles le réclament. Donc, il y a cette idée de est-ce qu'on se fait pas espionner ? Est-ce que les autorités chinoises n'ont pas récupéré les données qui vont passer par les smartphones et par les équipements 5G, hein. Emmanuel a eu raison d'insister là-dessus, pour le donner aux autorités chinoises, mais surtout, bon, je ne sais pas s'il y a un risque, là c'est aux cyber, aux gens spécialistes de cybersécurité de nous le dire, mais surtout les États-Unis, la 5G c'est une des infrastructures clés pour demain, les États-Unis sont en retard. Les Chinois sont devant sur le plan technologique. Donc, que veut faire Trump ? Il veut, au-delà du fait que les gens n'aient pas leur smartphone noyé, il veut les tacler, il veut les freiner sur la 5G. Pourquoi ? Parce que il veut conserver l'Europe comme colonie numérique des États-Unis. Il veut pas qu'on devienne une colonie numérique des Chinois, parce qu'en fait, l'Europe est une colonie numérique. Et les Asiatiques l'ont fait déjà, la Corée du Sud, l'Inde, l'Australie ont déjà refusé de développer les techniques de 5G de Huawei. Donc c'est vraiment, Patrick Artus avait raison de le dire, on n'est pas dans la guerre commerciale, on est dans une bataille technologique terrible.
Alors du côté des Chinois justement, à quoi on peut s'attendre du point de vue de leur riposte ? Il va y en avoir ?
Alors, du côté de Huawei, il y a Huawei et la Chine qui peuvent répondre. Hein. Huawei, ça fabrique déjà des puces, hein, puisqu'on a dit qu'il n'aurait plus accès aux puces américaines ou aux puces fabriqués en Europe ou dans le reste du monde avec au moins 25% de contenu américain. Mais pas assez. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent à développer leur propre semi-conducteur. Il va falloir qu'ils mettent un peu le paquet. Ils vont tenter de développer un système d'exploitation qui soit alternatif à Android, par exemple. Bon, le problème, c'est que, et pour essayer de vendre des services informatiques au reste du monde, ça va prendre du temps. Mais rappelons-nous ça, la Chine, elle réfléchit pas à 2 ans. La Chine, elle réfléchit à 15-20 ans. Donc, même si ça prend 2-3 ans où Huawei aura des difficultés, ils vont le faire. Huawei, c'est le premier déposant de brevets au monde en 2018. Le premier déposant de brevets au monde. Donc, ils ont l'avance technologique. Pour l'instant, Taïwan, qui fait beaucoup de semi-conducteurs, a continué à dire qu'ils vont donner leur semi-conducteur à Huawei. Et puis, la Chine elle-même, on nous dit 1100 milliards de réserves en bons du trésor américain. Ils pourraient peut-être être tentés d'en vendre un petit peu. Oui, mais attention, où est-ce qu'ils mettraient l'argent? Et puis, leur portefeuille la valeur de leur portefeuille va décliner. Juste un dernier truc, les fameuses terres rares. Les terres rares qui ne sont pas des terres, hein, qui sont des composants très essentiels pour toutes les technologies, bien sûr, smartphones, etc., mais aussi de défense. 70% des réserves sont en Chine. Et ce n'est pas pour rien que le premier ministre chinois, Xi Jinping, a été se balader devant une usine de terres rares en disant « Attention, si vous nous mettez la pression, on est capable de vous couper ça, nous aussi. »
Des ripostes sur le long terme, côté chinois, Emmanuel ?
Alors, à court terme, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, d'abord, l'Europe, qui est un peu au milieu de ça, n'est pas seulement la balle de ping-pong avec laquelle jouent les Chinois et les Américains. C'est-à-dire, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, parce qu'effectivement, la bataille commerciale, ce conflit commercial, n'est qu'une des batailles de cette immense guerre technologique qui n'a qu'une seule ambition, c'est de retarder l'avènement inéluctable. Inéluctable des Chinois comme première puissance technologique mondiale.
Alors en quoi on est concerné nous en
Alors
Europe,
nous,
même en France ?
Nous on est concerné. Alors d'abord sur les appareils, effectivement, pour le moment ceux qui sont encore et pour quelques semaines équipés de Google, de tous les outils Google, on les aura encore. Ça c'est pas un problème. Pour le moment, les pays européens n'ont pas décidé de renoncer à utiliser Huawei pour bâtir leur réseau de 5G parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Mais un petit effet collatéral positif peut-être, c'est que effectivement, si Huawei est banni du marché américain de la 5G, il y a pas que les Américains qui pourraient en profiter. C'est-à-dire que nos Européens qui essayent de ramer pour rester dans la course à la 5G, Nokia, Ericsson, qui pour le moment ont des solutions, mais qui sont très chères encore par rapport à Huawei, etc. Ça peut peut-être leur permettre aussi de gagner un peu de temps. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, la bataille qui est derrière, c'est la grande guerre technologique mondiale, et que moi, je ne vois pas comment on peut enrayer la progression chinoise dans un monde où, effectivement, Christian l'a dit, ils ont l'argent, alors que les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. N'oubliez pas que dans cette guerre commerciale, il y a un aspect très important. Parce qu'on dit, oui, plus globalement, les États-Unis achètent 5 fois plus à la Chine que la Chine n'achète aux États-Unis. Et donc, si on prend des sanctions commerciales, ça pénalise surtout les Chinois. Mais les Chinois, ils ont l'arme financière. Et n'oubliez jamais que Donald Trump, son baromètre de popularité, c'est la bourse, c'est les courbes des indices boursiers américains, et que les Chinois, ils ont les moyens de faire baisser Wall Street. Et ça, Donald Trump, c'est son point de vulnérabilité à 1 an des élections présidentielles.
Et c'est bien pour ça que lorsqu'il a annoncé cette coupure des approvisionnements de Huawei, après, quand il a vu que ça commençait à s'exciter dans les milieux d'affaires et sur la bourse, il a dit attention, ce sera dans 3 mois.
Peur, ouais.
Donc ce sera dans 3 mois uniquement, et peut-être que finalement il va laisser. Juste un petit mot sur la France. Allez-y. Quand même. Ericsson et Nokia, c'est vrai, mais Emmanuel l'a dit, ils sont quand même 20 à 30% plus chers que les Chinois pour l'instant. Oui. Donc ça pose un problème. Orange, nous en France concrètement, Orange avait déjà annoncé en décembre dernier qu'il n'utilisera pas les équipements de Huawei pour développer la 5G. Mais il y avait un accord pour développer des offres de cloud, c'est-à-dire permettre de garder des choses dans le système informatique global. Et là, cet accord, je ne sais pas où ça en est. Bouygues avait passé un accord avec Huawei pour la 5G avec un test à Bordeaux depuis juillet dernier. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'ils vont continuer? J'en sais rien.
Alors justement, en France, sur la 5G, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit il n'est pas question de cibler Huawei. Hein, oui. La France se démarque du coup de la position américaine. Il a raison, selon vous?
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'après, chaque entreprise fait affaire avec les fournisseurs qu'elle choisit. Mais ce qui compte, c'est qu'à la différence des États-Unis, institutionnellement, les gouvernements n'ont pas interdit, effectivement, de travailler avec, avec Huawei.
Mais finalement, Donald Trump, dans cette guerre technologique et commerciale, est-ce qu'il ne risque pas, paradoxalement, de faire émerger de nouveaux champions chinois, puisque Huawei va devoir développer un équivalent du système Android de Google pour ses smartphones, vu la taille du marché chinois, les États-Unis ne sont-ils pas en train de faire grandir ceux qui les domineront un jour ?
Non mais de toute façon, oui, alors on voit bien qu'il essaye de retarder cette échéance, mais quand vous mettez finalement les forces en puissance, c'est quand même déséquilibré très nettement en faveur de la Chine. Si vous prenez la puissance innovatrice, par exemple, songez que ces fameuses licornes, vous savez, ces entreprises valorisées plus d'un milliard, il y en avait zéro en 2013 en Chine, et les 75% des licornes mondiales étaient américaines. Aujourd'hui, c'est 40% américaines, 40% chinoises. On l'a dit, l'épargne mondiale, les données, on nous dit, c'est le nouveau pétrole. Bon bah la réalité c'est que en 2000 vous aviez 22 millions d'utilisateurs internet en Chine, vous en aviez 4 fois plus aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez 4 fois plus d'utilisateurs d'internet en Chine. Ce pétrole, ce sont les Chinois qui sont institués, ils ont la puissance financière. Ils ont aujourd'hui leur BATX, Baidu,
Alibaba,
etc., qui sont les équivalents des moteurs de recherche de Facebook, etc. C'est les plus gros sites mondiaux aujourd'hui. Donc moi, je vois pas comment on peut empêcher à terme l'avènement de cette puissance technologique chinoise.
Le problème pour les Chinois, c'est de sortir du marché chinois. Parce que oui, ils se développent sur un marché intérieur très fort, mais ils veulent être des offreurs de services de télécommunications informatiques au-delà de la Chine. Et c'est bien ça qui se joue aujourd'hui dans la bataille avec les États-Unis. Comme Samsung, on avait les deux premiers vendeurs de smartphones au monde, c'était Samsung et Apple. Et puis Apple a reculé parce que Huawei est passé deuxième. Et ils avaient Samsung en ligne de mire. Ils étaient en train de devenir le leader mondial. Ça, quand même, ça va reculer. Hein. Ils vont mettre quelques années. Encore une fois, ils réfléchissent à long terme, donc peut-être ils vont bien investir, développer leurs propres semi-conducteurs. Ils ont déjà Huawei, iSilicon, ils ont déjà leur filiale qui fabrique des semi-conducteurs. Ils vont accélérer comme des malades. Comme je l'ai dit, ils sont le premier déposeur de brevets sur ces sujets-là au monde en 2018. Donc ça va aller, mais quand même, ils vont investir là-dedans, mais quand même sur les 2-3 prochaines années, ils vont avoir du mal. Et je pense que là, Samsung, ils se frottent les mains et Apple se frotte les mains.
Et il y a un autre élément de riposte que Christian a évoqué, mais un mot quand même dessus, c'est fameuses terres rares. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, n'oublions jamais que dans ce monde qui paraît extrêmement dématérialisé, où tout se passe dans le cloud, etc., c'est un monde qui est en fait plus consommateur que jamais de ressources naturelles. Or, ces fameuses terres rares, il y en a dans le monde entier, sauf que personne n'ose les exploiter parce que les conditions d'exploitation sont très coûteuses, et y compris pour l'environnement. Donc, ils ont que 30%, mais 80% de la production mondiale de terres rares est chinoise. Si demain les Chinois disent, attendez, pour vos avions de chasse américains, pour vos technologies de guerre, etc., on vous fournit plus les métaux dont vous avez besoin, on est aujourd'hui quand même géopolitiquement aussi très dépendant de la Chine.
Et surtout, ils transforment ces terres rares. Et il n'y a que la Chine qui les transforme.
Dernière question, puisque cette bataille technologique vient se rajouter à une bataille commerciale. On parle beaucoup des droits de douane depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Est-ce qu'il y a une part de tactique dans tout ça? Et est-ce qu'on est en train de vivre un début de fin de mondialisation?
Il y a déjà une désinternationalisation des processus de production. C'est-à-dire que la grande vague de segmentation des processus de production dans tout un tas d'usines à travers le monde, cette vague-là, elle est derrière nous. Aujourd'hui, on voit bien que parce que les coûts de main-d'œuvre ont beaucoup augmenté dans les pays émergents, parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de boîtes qui avaient sous-estimé le coût de l'éloignement. Dans un monde où on veut de la proximité et de l'individualisation des produits, dans un monde où on veut plus faire piller ses brevets, dans un monde où on se rend compte que une usine qui est pénalisée par exemple par la catastrophe de Fukushima paralyse les usines automobiles du monde entier, mais ça, les entreprises n'en veulent plus. Donc cette désinternationalisation des processus de production, elle était à l'œuvre. Ça ne veut pas dire démondialisation.
Voilà, c'est quand même un peu de démondialisation et quand même un recul, je pense, de l'organisation mondialisée de la production pour tous les arguments qu'a donné Emmanuel. Et juste un petit dernier mot sur le protectionnisme. Le protectionnisme, en fait, quand vous regardez dans les années 30, contrairement à ce qu'on croit tous, ça a eu très peu d'impact sur l'évolution du commerce mondial. C'est la croissance qui fait le commerce, pas le commerce qui fait la croissance. Et aujourd'hui, vous avez Standard & Poor's, Patrick Artus, tous les économistes qui regardent de manière un peu précise les impacts du protectionnisme, l'effet sur l'inflation, l'effet sur la croissance mondiale, quasi nul.
Merci à vous, Christian.
C'est juste le consommateur qui paiera.
Emmanuel, la Chine qui n'en finit plus de bousculer l'économie mondiale, les télécoms, on vient d'en parler, mais pas seulement, la concurrence fait rage aussi dans l'automobile sur fond de marché déprimé, un défi pour les constructeurs en France. Quelle stratégie pour Renault et quel avenir pour son alliance avec Nissan et Mitsubishi? Le tout nouveau grand patron de l'alliance, Jean-Dominique Senard, nous a accordé une interview. Entretien à suivre dans une dizaine de minutes, mais d'abord ce reportage qui en dit long sur les difficultés que traverse actuellement la filière automobile dans notre pays. Les ouvriers de GMES se sont invités la semaine dernière sur la Croisette à Cannes. Un film retraçait l'histoire de leur usine et de la lutte qu'ils ont menée pour tenter de la sauver.
Et c'est Dravin, il est là, Philippe Richard, il est là, le front Valérie, il est là.
On est venu. Salut les filles, bon, bon voyage.
Et merci. Il y en a moins 5.
Nous, on est des anciens de l'entreprise. Moi, je suis resté 40 ans. 38 ans pour Patrick, là, on est des anciens. Et puis, c'était une usine de jouets à l'époque, de jouets métalliques. Patinette, tricycle, portique. Et puis bon, il y a eu cette restructuration, tu te souviens? Tout ce qui n'était pas de l'automobile, ils ont tout liquidé. Et ils ont gardé que ça, que ça. À l'époque, j'étais membre du comité central et on leur a dit 100 fois, il faut garder la diversité de la production. S'il y a des problèmes au niveau de l'automobile, c'est une porte de sortie sur une autre production. Parce que là, là non. De les voir partir et puis de voir le film qui a été sélectionné, pour nous, c'est quand même une grande, grande joie. Puis pour eux, c'est quand même une reconnaissance aussi de leur combat qu'ils ont fait pendant plus d'une année.
Le combat des GMES porté sur grand écran dans un film qui ne concourra pas ce soir pour obtenir la Palme d'Or à Cannes, mais pour lequel une quarantaine d'ouvriers, acteurs malgré eux, ont fait le déplacement spécialement depuis la souterraine dans la Creuse. Ils en veulent aux constructeurs automobiles dont ils dépendent et qui avaient promis au gouvernement de continuer à remplir le carnet de commandes. GMES de l'usine au tapis rouge, c'est un reportage de Maxime Deps avec Laurent Macchietti pour la technique.
Arrivé normalement entre vers 8h, 7h30, 8h. On est attendu sur la plage de la quinzaine. Et en sortant, on ira à la projection. Donc on a 60 places de réservées. On sait qu'on est très fiers d'être à Cannes. Donc tout le monde en blouse, parce que ce film, c'est ce qui retrace notre vie, c'est ce qui a retracé notre combat, et c'est ce qui retrace notre dignité.
On attend ça depuis un bon moment. C'est la cerise sur le gâteau, on va à Cannes. C'était inespéré pour une petite entreprise creusoise de certainement aller à Cannes représenter un documentaire de lutte, parce que c'était vraiment une lutte, c'était quelque chose de très fort ce qu'on a vécu. Et ces gens comme Tavares, comme Ghosn, quand on voit Carlos Ghosn où il est aujourd'hui, ça leur prouve que ils sont pas au-dessus de tout le monde et l'être humain restera un être humain et il peut être, à tout moment il peut être rattrapé.
Renault et Peugeot, ça fait des années qu'ils voulaient se débarrasser de nous. Mais pour se débarrasser de nous, ils ont fermé les robinets de notre côté. Et puis nous, on s'est retrouvés avec plus de commandes ou très peu de commandes parce qu'ils ont doublé les productions, donc ils donnaient les commandes ailleurs. Et puis nous, on s'est retrouvés avec moins de commandes et ils nous ont foutus au tribunal de commerce. Et sur Cannes, tous ceux qui sont intéressés par notre histoire, ils vont la voir, oui, ils vont la connaître. Oui. Et je suis curieux de voir les réactions des gens qui vont voir ce documentaire et de savoir ce qu'ils en pensent et comment ils le perçoivent.
Je suis là avec Nina. 12 heures de route en car plus tard, Théâtre Croisette, la salle est pleine et le public s'installe.
C'est un film magnifique qui nous laisse les larmes aux yeux. C'est surtout une vision du monde et de la catastrophe vers laquelle on va.
Émotion en effet palpable à la sortie. Hein. Le public quitte la salle, on peut le dire, bouleversé, y compris une certaine Romane Bourringer.
C'est vous le film, alors vous êtes très... le film est très beau carrément.
Ouais, c'est pas mal.
Bonjour.
Mets-toi avec. Romane, tu veux venir avec mon photo?
Attends. Tenez, je vous offre le...
Non, mais vous êtes trop sympa, merci.
Le t-shirt. C'est les anciens, mais c'est... au moins, c'est les GMS. Ouais.
Quand le documentaire ou le cinéma peut restituer des combats pareils, ouais, c'est là que le cinéma joue toute sa part, toute sa grandeur. C'est des vies assez insupportables à appréhender, ce qu'on fait aux gens. Ouais, je peux dire, je suis GMS, bien sûr, à mort, bien sûr.
Restez comme vous êtes.
Merci.
Sympa.
Bravo pour votre courage, vraiment.
Non, non, non. Une creusoise à la mer, elle doit pas être trop chaude, il n'y a pas un chat. Et Marie-Charlotte, c'est toi qui vas la première?
Qui est-ce qui va à l'eau alors?
c'est formidable, on se retrouve, on essaye de mener la lutte, et pour nous, représentants du personnel, c'est, bien sûr, on va prendre du bon temps sur deux jours, mais c'est surtout du travail. Aujourd'hui, on est là pour démontrer que les salariés, eux aussi, ont leur mot à dire, et nous, le but, c'est de continuer à faire passer le message que PSA et Renault continuent à nous laisser crever, et que le gouvernement cautionne et ne dit rien. On sait qu'ici, ce film, il va être vu dans plein de salles du monde entier, donc c'est de faire passer le message, le bon message, et c'est aussi d'interpeller les gens dans la rue. On a eu la chance de faire la croisette, mais tu peux discuter avec le citoyen lambda qui est là et tu poses.
C'est un peu visionnaire quand il parle de Carlos Ghosn. Hein. C'était pas parce encore sorti, l'affaire de Carlos Ghosn.
Il n'était pas encore en prison, le brave homme. En plus, Renault, partenaire du festival, c'est vraiment le choc. Là. Ouais, ça tombe juste, c'est le choc qui tape. Là.
Franchement, l'avenir en France... On voit bien qu'il n'y a pas une grosse volonté des donneurs d'ordre de pérenniser les sites, quoi. Ils font tout fabriquer à l'étranger parce qu'ils ont une manœuvre inférieure à la nôtre. Et puis voilà, quoi. Nous, on a résisté, on a fait la comédie, ça nous a permis de nous sauver, mais on ne sait pas pour combien de temps, quoi. Voilà. Au niveau de l'automobile, je pense que c'est bien plombé, quoi. Voilà.
Voilà, on les regarde vers la mer et on embarque à nouveau pour les GMES. C'est l'heure de rentrer. L'heureuse parenthèse se referme et dans le car, l'ambiance retombe un quelque peu, forcément. Dès demain, il va falloir revenir au triste quotidien.
Denis Hautebert, je suis rentré en 89, donc j'ai 30 ans de boutique depuis ce mois-ci. Je suis technicien de maintenance outillage, j'ai toujours été au service maintenance outillage. Aujourd'hui, si on fait 30 ans dans une boutique, c'est qu'on est passionné par notre travail. Et bon, la passion, on la perd petit à petit parce qu'on est en train de nous la faire perdre. Quand vous voyez vos parents de 70 ans qui ont travaillé, mon père a fait 68, c'est des gens qui se sont battus quand même. Et quand ils viennent visiter une usine comme ça et qu'ils vous disent oh, on n'a pas dormi de la nuit, ma mère me dit j'ai eu l'air. Là, franchement, ça, bah, c'est touchant. Quoi. C'est qu'on, quand ils ont vu cette usine avec tout, mais il y a tout pour travailler. On sait très bien qu'on est capable de frapper, de faire de la cataphorèse, d'assembler, faire des produits finis, comme on a su le faire. On avait des développements, aujourd'hui on n'a plus rien. On avait 50 personnes dans les bureaux, on n'a plus rien. Avec des machines qui sont plus entretenues, qui tombent en panne de plus en plus, on n'entretient plus ou un minimum. Donc on a des machines qui vont plus fonctionner, qui vont être trop vieilles. On n'a plus de gens pour répondre à ça et donc on va droit au mur. Donc si aujourd'hui on peut nous dire, allez, vous voulez aller à la souterraine de 22 millions, on vous donne 22 millions. On est incapable aujourd'hui de pouvoir le faire. Donc on est coincé de tous les côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne nous donne pas grand-chose et demain si on nous donne beaucoup, on ne peut pas le faire. Donc malheureusement, ils tuent les entreprises comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle de nous, il y a eu les Ford, il y en a partout. C'est tous les jours qu'il y a des usines qui ferment de 80, 100 personnes, mais qu'on ne sait pas parce que pourquoi les gens ne se battent pas, ils n'ont pas les moyens ou ils ne veulent pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si on ajoute tous ces gens, ben, l'automobile est morte. Je vous dis, c'est comme la confection, bientôt, il n'y aura plus. Et aujourd'hui, on ne fait rien pour arrêter ça. On ne fait rien.
Alors, est-ce qu'on ne fait vraiment rien ? Ce sentiment exprimé par cet ouvrier nous interpelle. De retour à Paris, on décide donc d'aller du côté de la porte de Montreuil à la CGT rencontrer Denis Bréant, qui nous reçoit chiffre à l'appui.
Installez-vous. Ah ben, bienvenue au 5e, au siège de la Fédération de la Métallurgie CGT. Si on regarde de 2008 à 2014, l'Europe de l'Ouest a perdu 240 000 emplois. Or, sur la même époque, on a créé 170 000 emplois dans l'Europe de l'Est et on n'a pas encore les chiffres de l'Afrique du Nord, mais il semblerait qu'on atteigne facilement la somme des emplois perdus en Europe de l'Ouest. Donc ça pose un réel problème parce qu'en France, c'est à la fois des emplois mais aussi des compétences qu'on perd et ça remet en question tout simplement l'avenir de l'industrie automobile dans notre pays. Regardez aujourd'hui la Clio. La voiture que Renault vend le plus en France, la Clio, elle est fabriquée à 0% en France. Et elle est fabriquée dans des pays low cost. Tout ça pour des réductions de coûts et des économies, soi-disant, que le constructeur fait. Sauf que l'acquéreur français, qu'elle soit faite en France ou qu'elle soit faite à l'étranger, il paie le même prix, quoi. Et là, il y a un réel problème. Les GMS, c'est ce qui les a emmenés dans le mur. La fonderie du Poitou. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a énormément de sites qui sont sur le coup de plans sociaux. Et malheureusement, souvent, c'est un plan social avant une fermeture. Puisqu'aujourd'hui, en France, on nous dit qu'on est moins compétitif qu'à l'espagnol. À l'espagnol, il est moins compétitif que l'italien. L'italien, moins que le tunisien. Le tunisien, moins que le marocain. Le marocain, moins que le chinois. Le chinois, moins que l'Inde. Et petit à petit, bah, le constructeur, c'est simple, il a le droit de vie ou de mort contre un équipementier. Ils accourent ou ils crèvent.
Un exemple tout simple, hein, PSA et Renault ont ouvert dernièrement des sites au Maroc, l'un à Kenitra, l'autre à Tanger. Et pour faciliter les approvisionnements, Valeo s'est tout de suite installé à côté. Pour Bernard Julien, universitaire et spécialiste automobile, cela pose forcément tout un tas de questions pour l'avenir de la filière en France.
Aujourd'hui, on est face à un dossier industriel très lourd qui peut être extrêmement problématique sur le plan social, sur le plan territorial, sur le plan du commerce extérieur. Et ça impose d'une certaine manière un espèce de retour de la politique industrielle parce que les constructeurs, bah, le fait que ça fasse des dégâts socialement ou territorialement, c'est pas leur problème. Et cela, évidemment, on risque de le vivre plus encore avec l'électrification, hein, d'où l'intérêt de contraindre, d'amener l'ensemble des acteurs de la filière à être dans des formes beaucoup plus collaboratives. Hein, finalement, on a une industrie automobile qui a l'habitude de fonctionner dans des modes un peu virils et guerriers, qui doit changer de vitesse à ce niveau-là aussi et être capable de se mettre dans des formes un peu plus raisonnées et dans des compromis qui permettront que la mutation se fasse. Évidemment, l'État, en l'espèce, paraît assez incontournable dans la gestion des mutations.
Qui est-ce qui va à l'eau alors ?
GMES de l'usine au tapis rouge, c'était un reportage de Maxime Deps.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Quel avenir pour la filière automobile en France ? Quel rôle pour nos grands constructeurs ? Le président de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Jean-Dominique Senard, revient sur la vision qu'il a de son rôle de constructeur de tout premier rang sur la scène française, mais aussi mondiale. Aussi sur l'état de l'Alliance franco-japonaise et sur les suites de l'affaire Carlos Ghosn. Il est l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour Jean-Dominique Senard.
Bonjour.
Vous êtes président de Renault à la tête de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Votre parole est rare. Merci de nous accorder votre première interview depuis que vous occupez ces fonctions à plein temps. Vous avez auparavant dirigé Michelin pendant 7 ans. On vous décrit comme un industriel visionnaire, diplomate. Vous êtes d'ailleurs le fils d'un ancien haut diplomate, ambassadeur. Il en faut de la diplomatie pour diriger une alliance aussi compliquée que cet attelage franco-japonais.
Oui, je pense qu'il en faut. Merci d'abord de m'accueillir aujourd'hui. La diplomatie est un art un peu complexe, qui est un mélange, j'allais dire, de compréhension, d'écoute, mais aussi de détermination. Et par conséquent, je sais qu'on m'a prêté beaucoup de qualités, probablement qu'on les a exagérées, mais enfin, je sais qu'elles sont nécessaires.
Alors, vous plaidez pour un renforcement des liens entre Renault et Nissan. Les dirigeants japonais ne veulent pas vraiment en entendre parler à ce stade, face à de telles divergences stratégiques. Je vous pose la question, cette alliance Renault-Nissan est-elle encore une alliance ?
Oh oui, parce que regardons les faits. Les faits, c'est que depuis quelques semaines, nous avons mis en œuvre un nouveau pilotage de cette alliance à travers un conseil de l'alliance qui est un conseil très opérationnel. Je suis très heureux de cela d'ailleurs parce qu'on a pu le mettre en œuvre très rapidement. Il s'agissait de s'assurer que les forces centripètes qui pouvaient éventuellement exister se tassent et redeviennent, je dirais, dans la norme. Et ce nouveau conseil que j'ai l'honneur de présider marche, fonctionne. Nous avons déjà tenu les premiers conseils en France il y a un petit peu moins d'un mois. Et je vais partir au Japon lundi prochain pour tenir le deuxième conseil de cette alliance avec un programme extrêmement précis, des éléments extrêmement opérationnels et concrets. Et je pense que, comme je l'ai dit souvent, chacun sera surpris des réalisations de ce conseil.
Alors, travailler ensemble, c'est déjà une chose. Est-ce qu'il faut aller plus loin, selon vous ? Est-ce qu'il faut tendre vers une fusion pure et simple entre Renault et Nissan ?
On a beaucoup articulé ces jours-ci cette question de fusion, et en faisant, en quelque sorte, un petit peu peur à tout le monde. Parce que la réalité est beaucoup plus simple que cela. Chaque entreprise dans le monde, quelle que soit son activité, doit réfléchir à son avenir et réfléchir aux meilleurs moyens de se renforcer, et notamment lorsqu'il s'agit d'une alliance, de vérifier comment on peut l'optimiser. C'est un travail normal. Ces discussions autour d'une fusion capitalistique ont lieu depuis pas mal de temps. Elles ont été ressorties récemment un peu de façon dramatique. Je pense que c'était pas nécessaire. Je pense que c'est le devoir de toute entreprise de réfléchir à son avenir. Je pense que dans la suite des événements, tant Renault que Nissan que Mitsubishi réfléchiront à ce sujet dans la sérénité.
Mais n'y a-t-il pas une fierté quelque part nationale, voire nationaliste au Japon que le diplomate que vous êtes aurait dû mieux prendre en compte ?
Oh, mais je l'ai parfaitement prise en compte. D'ailleurs, dans la mise en œuvre de ce nouveau comité opérationnel, toutes les perceptions de nationalisme, comme vous dites, mais qui sont surtout des perceptions culturelles, plutôt, je préfère ce mot, ont été prises en compte. Et vous savez d'ailleurs, on dit souvent, mais que les Japonais sont particulièrement sensibles à ce sujet-là. C'est vrai, mais nous aussi. Et vous ne se cache pas que plus je voyage dans le monde, ce qui m'est arrivé quand même pas mal ces derniers temps, plus je vois ces éléments ressortir. On le voit même en Europe. Donc il faut pas en faire un point de fixation sur le Japon. Je crois que nous avons tous nos sensibilités et la beauté de cette alliance, c'est que justement elle a été fondée sur un trait de génie, notamment de Louis Schweitzer, qui était de dire qu'il faut s'unir, mais dans le respect des cultures. Je continuerai, tant que j'aurai la charge de cette alliance, à respecter les cultures. Et on ne fera pas d'évolution dans l'avenir, quelle qu'elle soit, sans ce respect-là. Et après cela, le reste, c'est de la modalité, plus que le reste.
Vous parliez de Louis Schweitzer, votre prédécesseur immédiat, Carlos Ghosn, compte aussi au premier rang parmi les architectes fondateurs de cette alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il est aujourd'hui assigné à résidence à Tokyo après plusieurs périodes d'incarcération depuis novembre dernier, notamment poursuivi pour fraude fiscale. Quel regard portez-vous sur cette affaire? Qu'attendez-vous surtout du procès qui devrait avoir lieu au Japon, a priori en début d'année prochaine?
Vous savez, je ne peux pas m'ériger en juge. Ce n'est ni mon métier, ni ma vocation, ni mon rôle. Et c'est d'ailleurs certainement pas le rôle du conseil d'administration de Renault que je préside aujourd'hui. Il y a trois principes qui m'ont toujours guidé, qui sont un, le respect des personnes, deux, le respect des faits, et trois, le respect de la présomption d'innocence. Et donc pour moi, je n'ai pas à intervenir au-delà de cela dans cette question. Certes, il y a une juridiction japonaise, comme il y a une juridiction nord-américaine, française et autres. Et lorsqu'on travaille dans ces pays, on doit comprendre qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, vivre avec ces éléments-là. Je crois que ce n'est pas à moi de me prononcer en quoi que ce soit, mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est l'avenir de Renault, l'avenir de l'Alliance et la perspective. Parce que, quand même, nous sommes aujourd'hui, et c'est fondamental, dans une période de grande turbulence dans le monde automobile. On est devant des choix considérables qui vont nécessiter des investissements, on le sait, eux-mêmes considérables. Nous n'avons pas trop le temps. On regarde ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Chine. L'industrie automobile est en train d'évoluer à toute vitesse. C'est pas un reproche. Eux-mêmes évoluent et ils appliquent des technologies nouvelles de très grande qualité. Que devons-nous faire, nous? C'est ça qui est important pour moi. C'est l'avenir de Renault, c'est l'avenir de l'Alliance. Nous avons un énorme enjeu devant nous et c'est vers cela que j'aimerais orienter les attentions.
Alors vous présidez Renault désormais. Est-ce que simplement pour terminer sur cette affaire et en dehors des aspects personnels, il y a des leçons que vous avez tirées en interne pour l'avenir?
Je crois que ce qui est très important, c'est d'assurer la transparence de la gouvernance. Et je crois que je m'y emploie. Et j'ai fixé à tout le monde comme ligne directrice la transparence, la loyauté et l'ouverture. Voilà, la ligne guide, c'est la transparence, la loyauté et la gouvernance ouverte.
Alors, l'image des grands groupes comme Renault passe aussi par leur responsabilité sociale. On a entendu dans le reportage les ouvriers de GMS qui assignent Renault et PSA, les constructeurs donneurs d'ordre en justice, de meilleures relations avec les sous-traitants. C'est un enjeu d'avenir pour vous, pour la filière automobile en France?
Oui, j'ai entendu le reportage tout à l'heure. Il y a une chose que je ne peux pas laisser dire, c'est que la question sociale n'est pas au cœur de nos préoccupations. J'ai entendu cela, je ne pense pas que ce soit exact.
Alors justement, répondez.
Et c'est important. Parce que pour moi, vous le savez, je l'ai écrit l'année dernière avec Nicole Notat dans un rapport sur la question du rôle de l'entreprise, l'ensemble des parties prenantes est absolument essentiel si on veut comprendre le rôle des entreprises. Or pour moi, les sous-traitants sont un des éléments essentiels de ces parties prenantes. Et par contre, on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. Et dans le cas particulier, effectivement, de cette turbulence que traverse l'ensemble de l'industrie automobile, les sous-traitants subissent les conséquences de cela. Il faut bien aussi comprendre que des nouvelles normes, des nouvelles fiscalités, parfois qui ont été mises en œuvre sans prendre en compte des analyses d'impact, on n'a pas forcément toujours pris le temps de le faire. Maintenant, on est obligé d'en gérer les conséquences. Et toutes les turbulences que nous vivons en France, notamment chez les sous-traitants, viennent de là. Il y a des évolutions majeures. La diminution du diesel, l'augmentation de la motorisation essence, l'arrivée du moteur électrique, tous ces éléments-là sont extraordinairement perturbants et il fallait le temps de les anticiper. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, c'est pas la peine, je dirais, de regretter cette situation, il faut la gérer. Et je pense que le groupe Renault doit faire son devoir, le fait. Dans le cas particulier que vous évoquez, nous accompagnons l'entreprise avec un travail très précis avec le ministère. Nous nous assurons que le repreneur qui est aujourd'hui prévu pourra vivre dans des conditions raisonnables, économiques, et que donc nous assurons que les engagements qui ont été pris seront tenus. D'ailleurs, nous l'avons fait récemment, je vous rappelle le sujet de la fonderie du Poitou, était quand même un sujet difficile, dans lequel je crois que Renault a été exemplaire, puisque finalement cette entreprise a retrouvé une seconde vie.
Reste, Jean-Dominique Senard, qu'il y a un marché mondial compliqué, la concurrence chinoise, vous l'évoquiez, une conjoncture redevenue morose, est-ce qu'il y a des baisses de production à prévoir, selon vous, à court ou moyen terme ? Pour cette année 2019.
On entend beaucoup de choses aujourd'hui, vous en êtes l'écho d'ailleurs, dans constructeurs automobiles qui annoncent parfois aux États-Unis ou ailleurs des baisses sensibles de production.
Et chez vous, chez Renault ?
Et chez nous, je préfère regarder les choses de façon positive, c'est-à-dire que je crois que nous avons une chance, justement notamment grâce à l'Alliance, de regarder cet aspect-là sous l'angle d'opportunité. Voyez-vous, souvent lorsqu'on est amené à penser à des réductions de capacité, c'est parce qu'on ne peut pas les utiliser correctement et qu'ils se retrouvent dans une situation économique impossible. Dans le cas de l'Alliance, nous avons cette chance, surtout si nous la mettons en œuvre de façon forte et je dirais ouverte, c'est de pouvoir mutualiser correctement toutes nos capacités de production. Or, je ne connais pas de meilleur moyen pour survivre sur le plan économique que d'avoir des usines dont les capacités sont pleinement utilisées. Si elles ne doivent pas l'être dans l'avenir, il faut pouvoir adapter, mais il faut avoir le temps d'anticiper. Et la question de la compétitivité sera de toute façon toujours là. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment, les choses s'accélèrent de ce côté-là en matière de concurrence. Mais mon point, c'est que plus on pourra mutualiser nos forces, plus on pourra mutualiser nos capacités de production, moins on sera dans la situation de risque.
Il y a aussi
pour moi, c'est ça qui compte.
Ouais, la responsabilité environnementale, Renault, parmi beaucoup d'autres constructeurs, est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de Dieselgate, en gros de trucage des moteurs diesel pour contourner les contrôles anti-pollution. Les faits remontent là aussi à plusieurs années, bien avant votre arrivée, mais c'est un sujet que vous suivez de près ?
C'est un sujet que j'ai suivi, comme vous vous en doutez, mais pour moi, il y a le passé. Je suis d'ailleurs incapable de juger, de donner un jugement précis et technique et technologique sur le sujet, donc je préfère m'abstenir. Par contre, je sais ce qu'il y a dans l'avenir. Et l'avenir doit être à la transparence absolue, à la qualité, je dirais, comme premier défi et premier objectif. Et je n'imagine pas une seconde que ce type de débat ait lieu dans l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement, les équipes de Renault que j'ai rencontrées, partout, que ce soit au technocentre ou même dans les usines, j'étais à Cléon l'autre jour, tout le monde est vraiment concerné par le sujet et pense maintenant que l'avenir doit être absolument irréprochable. Par conséquent, je pense que c'est ce qui va arriver.
La loi Pacte qui vient d'être votée au Parlement encourage les entreprises à se donner une raison d'être. On parlait du social, de l'environnement, c'était d'ailleurs un point de votre rapport de l'an dernier sur les entreprises. C'est quoi aujourd'hui la raison d'être d'une entreprise comme Renault ?
Alors justement, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'elle soit aujourd'hui parfaitement définie et je pense qu'il faut que nous réfléchissions à la définir un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Et c'est important parce que la raison d'être, c'est pas simplement un mot, c'est pas une phrase. C'est ce qui va engager toutes les équipes d'une entreprise. C'est ce qui fait comprendre aux équipes pourquoi elles travaillent en se levant le matin. C'est ce qui fait qu'on relie le passé avec toute cette passion automobile de l'entreprise à son avenir. C'est ce qui fait au fond sa caractéristique première. Et par conséquent, d'abord, il faut définir la raison d'être de l'Alliance parce qu'elle va déterminer la stratégie des entreprises. Et c'est ça qui prime.
Merci à vous Jean-Dominique Senard, merci d'être venu nous voir dans On n'arrête pas l'écho. Et bon voyage au Japon alors.
Merci, merci beaucoup.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, avec cette question de Clémentine qui a suivi l'affaire des deux salariés de Cora licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. Elle-même est vendeuse dans un magasin de vêtements. Sa question, quand on a accepté de venir plusieurs fois le dimanche, peut-on ensuite refuser sans risquer la porte ?
Oui, la semaine a été marquée par cette affaire de licenciement pour faute grave de deux salariés de l'hypermarché Cora parce qu'ils ont refusé de travailler le dimanche. L'inspection du travail a diligenté une enquête et les prud'hommes auront peut-être leur mot à dire dans ce dossier. Il faut dire que le travail du dimanche, c'est l'enfer du juriste, le royaume des dérogations. Clémentine, ce qu'il faut regarder, c'est ce que dit la convention collective de votre secteur et surtout votre contrat de travail. Les salariés qui travaillent dans un hôpital, un théâtre, un hôtel ou une raffinerie de pétrole savent dès l'embauche qu'il y a des contraintes de production ou de continuité du service public. Ils sont tenus de travailler le dimanche sous peine de sanctions et ça ne donne pas lieu à des majorations de salaire.
Mais comment ça se passe pour le commerce de détail.
Les commerces alimentaires peuvent depuis très longtemps faire travailler les salariés le dimanche jusqu'à 13h. Et dans les grandes surfaces qui dépassent 400 mètres carrés, des contreparties salariales doivent être proposées. Mais ce n'est pas parce qu'un magasin a le droit d'ouvrir qu'il peut se passer de l'accord des salariés. Dans le cas de ceux de Cora, qui travaillaient déjà dans cet hypermarché de Saint-Malo avant qu'il n'ouvre le dimanche, rien n'était apparemment prévu dans leur contrat de travail d'origine. Ils n'ont pas non plus signé d'avenant après ces changements d'ouverture. Et bien sûr, quel que soit le secteur d'activité, on peut tout à fait refuser d'être volontaire. Si on ne signe pas l'avenant, on ne risque, en théorie, aucune sanction.
Mais une fois qu'on a dit oui, une fois, même oralement, est-on volontaire pour toujours ?
Non, le volontariat est réversible. L'accord de Carrefour Hypermarché, par exemple, prévoit que les salariés remplissent tous les 6 mois une fiche pour du volontariat habituel ou ponctuel. Ils peuvent se rétracter sous réserve de prévenir 1 mois à l'avance. Chez Darty ou au printemps, une notification écrite est nécessaire. Des accords de branche ont été signés dans les secteurs de l'habillement. Eh bien, Clémentine, c'est pareil. Ces textes signés avec les syndicats autorisent les volontaires à faire marche arrière, moyennant un délai de rétractation. Évidemment, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a parfois des pressions et la crainte de rater les promotions si on dit non. La banalisation du travail du dimanche fait son œuvre, mais la recherche d'une meilleure qualité de vie aussi.
Merci beaucoup Sandrine Foulon, Ma vie au boulot. Et c'est la fin de votre magazine Écho. Rendez-vous samedi prochain dès 9h10 sur cette même chaîne avec Yves Decamp à la présentation. Puis ce sera le retour de la patronne Alexandra Ben Saïd la semaine d'après. Très belle journée à vous à l'écoute de France Inter.